Bonsoir. Vous attendiez deux personnes. Première surprise, on est trois. Bon, ça, c'était déjà une surprise du chef. À ma droite, un jeune garçon qui, depuis 24 heures, n'est plus rien, pratiquement. C'est comme Miss France, hein, du jour au lendemain. T'as rendu ton maillot de bain? Comment ça se passe? Et à ma gauche, Pascal Fioretto, qui est un garçon extrêmement sympathique. Hein, lui, voilà. Alors moi, je suis là parce que... Alors moi, je m'appelle Jean-Louis Chifflet. Je suis un petit éditeur et un petit auteur, mais depuis... je crois que j'ai jamais raté un salon du livre. Je crois, tu peux pas en dire. Tu n'étais pas né au premier salon du livre de Brive. Et on m'a demandé de faire le modérateur. J'adore ce mot. Modérateur, c'est de mon temps, c'était un... Modérateur, ça veut dire qu'a priori, ils vont se battre, donc je suis là pour les séparer. Pourquoi je suis là aussi? C'est parce que le hasard fait, le heureux hasard, c'est que je suis depuis très longtemps ami de mes deux camarades, à ma gauche et à ma droite. Pascal Fioretto, d'une part, parce que je l'ai édité, c'est le plus grand pasticheur de tous les temps, il ne le savait pas, mais maintenant, on le sait pour lui. Je l'ai édité, on a commencé à... Quand est-ce que tu es venu me voir?
En 2006.
En 2006. Juste pour faire très court, Albert Algou, qui était un ami commun et qui était à l'époque le patron de Flûte Glaciale, c'est ça? D'ailleurs, ce n'était pas du tout pour lui d'être patron de Flûte Glaciale.
Non, non.
Il m'a dit, je t'envoie quelqu'un qui est formidable, c'est un ingénieur. A priori, il n'a pas l'air très drôle, mais il est très drôle. Et vous pourriez faire des choses ensemble, puisque à l'époque, j'avais une petite maison d'édition qui faisait des livres d'humour. Quant à mon voisin de droite, bah, je le connaissais parce que j'ai lu tous ses livres. Et certains m'ont beaucoup touché. Et c'était un grand ami de Pascal. Alors rapidement, on a discuté avec Pascal. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire. C'était la grande époque du Da Vinci Code, c'est ça. Et je lui ai dit comment on peut faire un livre drôle. Il m'a dit je me demande si j'aimerais pas toucher au pastiche. Et c'est là qu'il m'a proposé... un titre qui était quand même assez original, le Gay Vinci Code. Donc, c'est-à-dire le Da Vinci Code dans le milieu gay. J'ai dit pourquoi pas. À mon avis, on va pas sortir du marais, mais pourquoi pas. Hein, c'est bien ça.
Oui.
Tu m'arrêtes. Donc, ensuite, je voudrais que tu rapidement que tu dis. Alors, on a fait un certain nombre de pastiches. Chez Chifflet et compagnie, tu en as fait combien?
Une bonne.
6.
6 ouais, recueils. Parce qu'en
fait, 6 recueils. Donc,
j'ai fait 6
alors...
recueils en gros parce que ce sont des. En général, ce sont des histoires dont chaque chapitre est écrit à la manière d'eux, ce qui permet pour le pasticheur déjà de renouveler le plaisir et éventuellement pour le lecteur quand tout va bien. Donc, on a fait, après le Game of Thrones, on a fait le best-seller à ce jour qui s'appelle Et si c'était niais.
Alors, raconte un petit peu. Et si c'était niais. Donc, on s'est dit que d'ailleurs, le Lévy en question, qui n'a pas d'humour, il l'a très bien pris. Hein.
Oui, Marc Lévy.
Marc Lévy l'a très bien pris. Alors, à l'intérieur, en deux mots, raconte les 10 personnages importants.
Oui, je les cherche parce que chaque fois, j'oublie. Vu que.
Eh bien, il y avait Amélie Nothomb.
Voilà, il y avait Amélie Nothomb.
Que je suis allé voir tout à l'heure parce que j'avais un moyen de la rencontrer. Et elle s'en souvenait très bien, tu l'avais appelé comment?
Ça s'appelait Hygiène du tube et tout le tremblement.
Hygiène du tube et tout le tremblement.
Et
comment tu l'avais appelé?
Qui ça?
Amélie.
Amélie Nothomb. Alors ça, c'était ces mauvais jeux de mots, c'était juste parce que on était hésitant sur le fait d'utiliser les noms, les vrais patronymes.
Voilà.
Parce qu'il y a de la propriété intellectuelle, il y a le fait donc d'utiliser la notoriété d'un personnage.
Mélanie Nothomb.
Nothomb.
Nothomb. Christine Anxio, pourquoi moi?
Fred Vargas.
Denis-Henri Lévy, Barbès oui. Vertigo, c'est ça?
Oui, Barbès Vertigo. Il venait de sortir American Vertigo. Donc,
American Vertigo.
On l'avait imaginé débarquant à Barbès pour.
Voilà. Il a très, alors voilà, dans un de ceux qui ne l'a pas vraiment bien pris.
Oui.
Amélie Nothomb, je l'ai vu tout à l'heure, elle s'en souvenait très bien, elle l'avait bien pris.
Elle était
venue nous voir. Mais le plus fan, c'était Jean Dormissémont. Avec, c'était rudement batte. Hein.
Oui.
Alors, là, lui, il a été génial.
Lui, j'ai reçu une lettre que j'ai encadrée et que je conserve précieusement,
voilà.
Dans laquelle il dit en substance, je ne vous promets pas de me corriger, mais qu'est-ce que j'ai ri. Donc, franchement,
voilà.
C'est venant de Jean d'Ormesson.
Et Anna Galvaudin, entre autres, aussi, quelqu'un m'attend.
C'est tout.
C'est tout, oui.
Anna Gavalda, pareil, qui avait été interrogée à l'époque et qui avait dit qu'elle avait, en lisant son pastiche, qu'elle avait appris beaucoup de choses sur sa façon d'utiliser les dialogues. C'est-à-dire, elle fait beaucoup d'incises et au bout d'un moment, on ne sait plus qui parle. Et donc, moi, je m'étais amusé à faire que les personnages se disaient « Mais qui est-ce qui parle? C'est toi ou c'est moi ?» Et donc, ils disaient « Mais toi, tu as tous les tirés pairs, donc c'est toi ? Non, c'est moi, enfin, etc. » Voilà, je jouais avec cette situation. Elle avait dit « C'est vrai que... à l'avenir, j'essaierai de faire attention à ça. » Ce que je trouve très élégant. Globalement, les gens qui sont
pastichés, Marc Lévy. Alors, Hervé, Marc Lévy, qui n'est pas un rigolo, il était venu nous voir en nous disant « Mais c'est formidable, mon fils qui a 15 ans est écroulé de rire parce qu'il s'est aperçu que vous aviez pris tous mes tics, en particulier quand il circule dans New York. » Il s'enfila dans la 14e rue, reprit la...
Oui. Quand il tire à la ligne en utilisant des trajets, etc. Mais tu oublies toujours de dire qu'à la fin de ce grand compliment, c'était à Brive d'ailleurs,
je me souviens.
À la Truffe Noire,
oui.
Il avait dit « Et alors quand est-ce que vous faites Guillaume Musso ?»
Oui.
Forcément. Ce qui n'a pas tardé, puisque quelques années après... Non, on a d'abord fait La joie du bonheur d'être heureux, qui était un pastiche
des livres de bonne...
On ne va pas rentrer dans les nuances, mais disons des livres de développement personnel, comment être soi-même en mieux, etc. Et tu te souviens qu'il y a été 3 semaines dans les meilleures ventes de développement personnel à la FNAC. Donc je ne sais pas comment les gens ont terminé à la lecture. Et on a donc enchaîné avec L'élégance du maigrichon. C'était, souvenez-vous, l'époque de Muriel Barbery.
Très bon, best-seller. T'as jamais eu de nouvelles d'elle, non?
Non, on n'a eu aucune. Mais personne n'a jamais eu de nouvelles. Elle a fait un livre phénoménal, à peu près aussi phénoménal que l'anomalie d'Hervé. C'est-à-dire, elle avait vraiment déjoué tous les pronostics et fait d'énormes ventes. Et puis ensuite, elle a disparu. Enfin, elle a fait un bref retour qui a fait long feu. Et donc, dans cette nouvelle livraison, il y avait Christian Pignol.
Oui.
Que vous reconnaîtrez peut-être.
Signol. Alors, je suis allé le voir tout à l'heure. Le hasard a fait. Il s'en souvient très bien. Et il se souvenait qu'il l'avait très mal pris. Hein ?
Oui. Et il cherchait mon stand parce qu'il l'avait mal pris. Il pensait que c'était un exercice de parisianisme. Parce que j'avais fait. Donc, comme vous le savez, il y a une école qui s'appelle l'école de Brive.
Il m'a expliqué qu'elle n'existait plus.
Elle n'existait plus.
Non, enfin, pratiquement.
Je lui avais fait écrire un chapitre, Les engoulevents de la Grange aux Loups, dans lequel il y avait évidemment un meunier qui avait caché un trésor et une servante sourde et muette qui essayait d'expliquer. Enfin, bref. Et il avait pris ça comme vraiment. Alors que c'était pas du tout contre lui, que j'ai un immense respect en plus pour
Non, dis pas trop quand même. Enfin.
Voilà, il y avait. Bref, on avait failli en venir aux mains. Heureusement, il y avait France 3, je me souviens, qui était dans le coin et il n'avait pas trop osé. Enfin, c'était pas allé plus loin. Il y avait Catherine Plancol.
Oui, qui avait. Alors, redis-moi le titre.
La valse jaune des tortues crocodiles. Il y avait.
Ça a très bien marché.
Il y avait Patrick Modiano.
Oui.
Hôtel obscur des amnésies perdues. Il y avait Eric Emmanuel Schmitt, Solers, Musso, donc le Musso. Son chapitre s'appelait Où seras-tu si je reviendrai sans toi? Et Philippe Delerme.
Oui, qui lui l'a très bien pris.
Ça s'appelait parce que On aurait dû fermer les volets. Ouais. Vous voyez, donc, ça sonne, il y a une familiarité, enfin, c'est crédible, il pourrait écrire quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai, oui. Et alors, bon. Un dernier pour la route, c'est le dernier que tu as fait avant celui-ci, qui est donc Houellebecq.
Alors ça, c'est mon seul monopastiche.
Oui, Mélatonine.
C'est-à-dire que c'est de la première à la dernière page, c'est du faux Houellebecq. Et ça s'appelle Mélatonine, c'était l'époque de Sérotonine. Et donc, dans laquelle...
Qui a très bien marché chez Robert Laffont.
Chez Robert Laffont, dans lequel j'imaginais... Houellebecq devenir heureux et donc perdant son filon, puisque c'est évidemment la déprime et le déclassement et le désarroi contemporain. Donc Houellebecq heureux ça ne va pas, donc il va chercher le malheur en s'installant dans la diagonale du vide, au milieu des éoliennes et des zones et de la France d'en face, la France pavillonnaire. Voilà.
Oui, c'est ça. Et je te signale que je viens de lire qu'il sort, il y a un nouvel Houellebecq qui sort en janvier. Alors prépare-toi.
Voilà. Mais trop tard, c'est fait.
Je sais pas le titre, mais
il y a un livre de Marin Viry qui est sorti récemment avec comme bandeau signé Houellebecq. Depuis que je lis Marin de Viry, je me sens mieux.
Non. C'est pas mal.
C'est pas mal, hein.
Mais flûte, c'était. Comment va-t-il gérer son bien-être?
Oui. Alors bon, donc, en deux mots, voilà comment je vous propose ce petit moment qu'on va passer ensemble. Donc vous avez compris que c'était quand même des plus grands pasticheurs de sa génération. C'est pas difficile. Il est tout seul en ce moment. Il y a eu Rabelais avant. Il y en a d'autres. On en parle.
Un autre sur la scène, hein, parce que il se trouve que parmi les choses qui nous relient avec Hervé, il y a le fait qu'il pratique en tant que coulipien et
président à vie.
Président maintenant en plus. Vas-y, je t'en prie, Hervé. Enfin, parle quand même de cet exercice que tu respectes.
À un moment donné, je crois que c'était l'anniversaire des exercices de style de Raymond Queneau. Ça devait être en 97, donc ça faisait à peu près 50 ans. Ça faisait même 50 ans tout pile. Et j'avais sorti un premier livre qui s'appelait Je compte jusqu'à 100.
Oh,
c'est un jeu de mots, hein, je compte jusqu'à 100.
Oui, oui. Hein. Tu l'as dit trop vite.
Donc. Je compte jusqu'à 100. Voilà.
Je compte.
Et donc, qui était 100 exercices de style où
marché.
Je précipitais la Joconde, voilà, et qui est devenu finalement, avec une réédition qui s'appelait Joconde sur votre indulgence, qui était un autre livre, et puis qui sont fusionnés dans un seul. J'ai fait 221 exercices de style, mais qui sont plutôt ce qu'on appelle des points de vue. Et dedans, à peu près la moitié sont des pastiches. Voilà, à peu près. Donc, il y a les pastiches de Calvino, il y a les pastiches de Sade, de Rabelais, voilà. Et à chaque fois, on en parlera, mais moi, j'étais limité par la taille, parce que je m'étais limité sur une seule page d'un volume qui est quasiment un semi-poche, donc j'avais pas beaucoup de place, j'avais presque, je pense, j'avais 1900 signes au maximum par pastiche. Mais bon, c'est un exercice assez classique à l'Oulipo. D'abord parce que Queneau est un fanatique de pastiche, et puis que...
Karadec.
Queneau était fanat de...
Exercice de style, t'as quand même des gros pastiches dedans. Sûr. Et puis Karadec aussi, qui était arrivé à l'Oulipo en 82, était lui aussi un spécialiste de pastiche. Il avait fait, par exemple, beaucoup de pastiches dans l'encyclopédie des farces et attrapes, qu'il avait publié avec un homme qui s'appelle...
Je vais te le trouver.
Le fils de Franc Noin, Jean Noin.
Jean Noin. Oui.
Avec Jean Noin, voilà. Ils avaient fait un livre ensemble dans les années 60. Donc, ce sont des amateurs du pastiche. Et de manière générale, on pourra en parler. Mais moi, je sais que à un moment donné, j'allais chercher chez trois pasticheurs des idées, parce qu'en fait. Le pastiche, c'est pas seulement un auteur, c'est l'idée qu'on se fait d'un auteur. Et donc, parfois, il faut s'adresser à des gens qui n'ont pas lu l'auteur et leur donner un avant-goût de ce qu'est l'auteur qu'ils n'ont pas forcément lu. Par exemple, beaucoup de gens qui lisent L'anomalie du train 006 découvrent Aurélie Valogne.
Oui.
Bon,
oui,
ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils ont découvert ton pastiche d'Aurélie Valogne, c'est plus la peine d'acheter des livres d'Aurélie Valogne. Il y a tout dedans, quoi. Donc,
c'est vrai qu'il y a un aspect économique aussi dans le pastiche.
Non, mais c'est très économique. Pour 16 balles, tu as quand même acheté l'intégralité d'Aurélie Valogne. Donc, c'est assez pratique. Et donc, cette idée que le pastiche, c'est l'idée qu'on se fait du pastiche, ça permet à des pasticheurs d'aller chercher chez d'autres pasticheurs qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire avec,
vous suivez,
avec
là,
un
y
sujet.
Y a pas de problème.
Voilà.
Et moi,
il y a deux pasticheurs que j'aime énormément. Il y a évidemment Pascal, que je dis depuis toujours. Et puis, il y a un autre auteur qui est un anglo-saxon et qui s'appelle Mark Crick et qui a écrit deux, trois livres qui sont traduits en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont d'ailleurs traduits par les... Ils sont traduits à chaque fois par l'auteur qui est pastiché, par le traducteur de l'auteur qui est pastiché. C'est formidable. Donc, sauf Sade, voilà. Mais il traduit... Et donc, il pastiche. Alors, ça s'appelle La soupe de Kafka, La baignoire de Goethe...
L'évier de Sartre.
Et L'évier de Sartre. Et il y en a un troisième qui est jardiné avec je ne sais plus qui.
Oui, et c'est au seuil tout ça, je crois.
Ça, c'est je crois que c'est au seuil. Oui,
c'est traduit en français.
Et c'est traduit en français. Et Mark Crick est un homme qui est un photographe. Dans sa biographie, il dit qu'il décide d'abandonner la littérature le jour où il découvre qu'il ne pourra pas avoir le prix Cervantes parce qu'il ne parle pas espagnol. Voilà, c'est une assez belle façon de se définir.
Alors, moi, ce que je vous propose, donc... Les impétrants sont présentés. Ce que je vous propose, c'est que on parle, d'abord tu m'avais dit, on va essayer de demander au public de lever le doigt ceux qui ont lu le Goncourt. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont lu l'Anomalie? Ah, quand même. Ah là là, ah, parce que tout s'explique. Il a dépassé le mi-tourné à 1 million... Combien? 1 million 100.
En France, en France.
Ouais, en impression, mais aussi au-delà du million, ce qu'on appelle GFK. Tu es juste derrière Marguerite Duras, hein, dans l'histoire du Goncourt en général. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien sûr. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il était traduit en 42 langues. C'est quand même un des plus beaux Goncourts du siècle. Marguerite Duras n'a fait qu'un million 600 mille. Hein,
mais... C'était au siècle précédent.
Hein, pardon ? Oui.
Oui, elle a combien ? Elle a 18 ans d'avance sur toi. Donc, 30 ans d'avance sur toi. Donc,
alors, moi, ce que je vous propose...
Figure in the nose.
Ce que je vous propose, parce qu'il est bien meilleur intervieweur que moi, il connaît, il pourra parler ou faire parler Hervé de l'Anomalie en 5-10 minutes pour que tu expliques bien et comment on en est arrivé ensuite à faire le pastiche du train 006. En deux mots, quand il a sorti son best-seller, on sait... Tout de suite, alors c'est moi j'ai eu la première petite idée, mais toi tu as eu la très très bonne idée, j'ai dit il faut le pasticher. Et tu as tout de suite imaginé
ça, c'est le roi du parasitisme commercial.
C'est-à-dire, puisque en gros l'Anomalie, comme vous le savez, c'est un avion qui arrive deux fois, et il a dit on devrait imaginer le train du cholestérol, puisque c'est un surnom. Je précise que c'est pas Orsena qui a inventé le train du cholestérol, c'est moi, je voudrais juste le dire. Qu'il arrête pas de dire. Et le train du retour, le train du diabète, hein, je te dis. Bon. Donc, il a eu l'idée géniale de faire le même coup avec le train qui, bon, pour ceux qui l'ont lu, mais on va vous en parler. Et la ville de Brive a eu la gentillesse, a compris que c'était un hommage exceptionnel pour la ville de Brive et pour la SNCF. Donc ils ont eu la gentillesse de nous proposer de faire ce débat et vous avez la gentillesse d'être là. Alors
oui, il y a un très beau passage sur la SNCF que j'espère que tu vas lire.
Je
ne
lirai peut-être pas, mais
c'est un bel hommage.
Un bel hommage. Donc est-ce que tu peux en deux mots, trois mots, faire parler, tu le fais beaucoup mieux que moi, faire parler, expliquer pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai vu qu'il y avait deux personnes qui ne l'avaient pas lu.
Oui, bah, on va peut-être divulgâcher la chose, mais c'est...
Non, vas-y, mais raconte en deux mots. Alors, je précise, on a parlé d'Air France. Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps ? Air France était tellement emballé par le bouquin, hein, qu'il propose, il devait faire un vol spécial Anomalie, Air France 006, c'est ça ?
Oui, bon, originellement, avant le Covid, avant que, oui, ça soit, avant le COVID, avant que les États-Unis soient complètement bloqués, donc l'année dernière... ils avaient envisagé, si ça s'améliorait, de faire un vol, disons, en mars 2020. Voilà.
On a vu tous les commandes.
2021, qui devait être le vol 006, qui aurait été le vol de l'Anomalie. Alors, c'est un partenariat qui n'a pas pu avoir lieu entre Air France, France Culture et Gallimard, et qui a été également annulé pour le deuxième vol de juin, qui était toujours avec une situation covidée. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais enfin bon...
Alors.
J'ai une jolie photo du décollage.
Oui, on va terminer de présenter le bouquin. Alors, si tu veux. Oui. Donc, il faut quand même donner le contexte parce que le pastiche est quand même parfois considéré à mauvaise presse. C'est-à-dire que ça peut être mal pris, comme on l'a dit. On vous a cité des exemples. Donc, quand Jean-Loup me dit il se passe quelque chose en librairie, le bouquin d'Hervé, c'est en train de casser la baraque.
De bouger.
Oui, de bouger. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire, là encore, ça défie les pronostics, etc. Et c'était après le Goncourt. Oui, c'était après le Goncourt. Ça devait, en fait... Il y a un effet Noël pour le Goncourt. Il y a un effet Brive. Il y a un effet Noël. Et puis ensuite, ça se calme. Tout le monde vaque. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'après Noël, le truc commence à décoller. C'est le cas de le dire.
Oui.
Donc, on est début
bravo,
janvier.
Bravo.
Oui, tu vois, les métaphores me viennent comme ça.
Et alors, on interroge à ce moment-là les plus grands éditeurs de Albin.
Non, je voudrais quand même bien dire que tout ça s'est fait avec l'assentiment élégant d'Hervé. Ah. C'est-à-dire que donc Jean-Loup me dit il se passe un truc avec ce bouquin. Je lui dis d'accord, mais enfin, Hervé, c'est quand même un copain. Bon. Donc, on écrit à Hervé, je me souviens, en lui disant, tu sais, on pense, Jean-Loup, moi très lâche, je dis Jean-Loup, il se dit qu'on pourrait faire un pastiche de l'Anomalie.
Courageux, oui.
Et il me répond aussi sec, ah enfin, mais bien sûr, allez-y, etc.
Donc, ça serait un bel hommage.
on avait l'accord du principal intéressé. Et donc, on pique son idée géniale de ce vol qui arrive deux fois, donc qui devient un train, le train du livre qui arrive deux fois. Et ensuite, on fait le casting des écrivains qu'on va mettre à bord et qu'on va pasticher plus en détail, parce que c'est là que mon boulot commence et que c'est un gros boulot, bah oui, je tiens à le dire, à mon éditrice qui est dans la salle.
Donc, oui, alors je voudrais dire pourquoi on a fait ça chez un éditeur qui n'est pas très connu mais qui est génial, j'allais dire même une éditeuse, Hérodios, qui a fait déjà des livres formidables. Pourquoi ? Parce que Albin, Michel, Gallimard, il ne voulait pas quand même, puisque c'est ton éditeur, ils étaient quand même assez gênés, Lafont, etc.
J'avais quand même envoyé chez Signe, parce que je pensais que ça pouvait être chez Signe, qui est une des filiales une collection de Gallimard, dans laquelle il y a Fab Caro, voilà.
Ils ont fait Fab Caro.
Oui, Thomas Vineau et d'autres. Donc je pensais qu'il y avait une place pour ça, puis quand même. Le dirigeant de cette maison, qui est un homme tout à fait charmant, a dit « Écoute, ça va être un peu compliqué quand même, on a Emmanuel Carrère, ça risque d'être mal pris. »
Oui, c'est vrai. Et alors simplement, Philippine, qui est dans la salle et qu'on remercie, a relevé le défi. Elle a dit « Moi, je peux le sortir en deux mois, parce qu'il fallait vraiment le sortir avant l'été. Hein, »
Mais n'oublie pas qu'elle est planquée en Suisse.
Elle est planquée en Suisse, mais là, elle est exceptionnelle.
C'est une maison suisse.
Elle est une maison suisse qui s'appelle Eurodio. C'est formidable parce que tous les grands éditeurs étaient très excités. Ils voulaient tous le faire, mais réunion de représentants, machin, oui, on va faire. Et elle a décidé ça.
Non, mais parce qu'il faut quand même dire que, comme le dit d'ailleurs mieux que moi Karadec, le pastiche, c'est à la fois de la mystification. On fait un faux, on fait du faux, on est faussaire, mais c'est aussi de la démystification. C'est-à-dire qu'il y a un effet qui peut être quand même assez décapant pour un auteur qui a pignon sur rue. Quand on se met à le pasticher, on dit un peu Christine Angot, ce n'est que ça. C'est-à-dire, c'est ça, mais vous voyez, il y a cette dimension-là. Donc, un éditeur, il pense déjà aux auteurs qu'il a chez lui et qui ne vont peut-être pas apprécier d'être dans la même maison d'édition que le gars qui se moque d'eux. Et puis, il pense aussi au futur, c'est-à-dire il se dit, mais si un jour, je ne sais pas, Delphine de Vigan vient chez moi, elle va peut-être dire, tiens, mais vous avez édité une personne qui se moque de moi. Donc, il y a tout ce contexte commercial qui entre en jeu. Et coup de chance, on trouve donc Philippine Cruz qui dirige la maison Hérodios, qui est basée en Suisse, et qui dit, moi, je n'ai pas d'enjeux commerciaux, je n'ai pas de conflits de loyauté avec...
Je m'en fiche si je le vends pas, de toutes les façons, bon.
Ouais.
Et on en est quand même presque 10 000 exemplaires.
Et donc, on se dit que, voilà, on peut y aller ensuite avec l'aval d'Hervé, et on y va. Qui dit... Non, et ça, c'est toi qui exagères toujours, qui dit, mais on va même demander une préface à Hervé.
Moi, j'exagère.
Oui, qui a dit, OK, voilà comment on se retrouve avec ce bouquin. Voilà. Donc alors je pense qu'on a, à partir de maintenant, je veux bien cuisiner mon camarade Hervé.
Je crois que tu peux le cuisiner en racontant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en racontant comment tu as bâti l'anomalie du train 006, en même temps, puisque tu as copié, tu t'es inspiré de l'avion, donc tu racontes comment ça fonctionne, puis on parlera surtout ensuite du choix de ceux que tu as fusillés sévèrement, n'ayant pas peur des mots, pourquoi tu as choisi... Éric, Virginie, Emmanuel, Aurélie, Sylvain, Éric, Emmanuel et Hervé. Là. Alors, comment tu as fonctionné là pour le train ?
Alors, pourquoi cela ? Pourquoi j'ai mis ces gens-là dans le train ? C'est parce que je commence à avoir une galerie de pastichés qui est assez grande et que pour que le pastiche fonctionne, il faut que le lecteur ait plus ou moins la référence. C'est-à-dire soit qu'il ait lu l'auteur, soit, comme disait Hervé, qu'il se fasse une idée de l'auteur. Donc, ça tombe forcément sur des têtes de gondole. Ça tombe pas sur des gens qui font qui n'ont pas une notoriété évidente. Donc, je me suis retrouvé avec des gens qui, à ce moment-là, et qui d'ailleurs l'ont toujours, prenaient la lumière, c'est-à-dire Sylvain Tesson. Alors, il se trouve que Sylvain Tesson, je savais qu'il n'y avait pas de risque, hein, parce qu'il aime bien mes
bêtises. Il a adoré, oui.
Il y avait Joël Dicker, qui était en train de quitter sa maison d'édition française pour fonder sa propre maison, et puis qui est un nom bien
connu. Est-ce qu'il se trouve, excuse-moi, mais c'est vraiment un scoop, parce que dans ton bouquin, il annonce qu'il va monter sa boîte. Alors, c'était bien avant qu'il ait eu l'idée de le faire, puisqu'il vient de le faire maintenant.
Il annonce à son double, puisqu'ils vont se retrouver à deux.
Alors, raconte.
Il y a Joël Dicker, il y a Virginie Despentes, que j'avais jamais fait, et je pense qu'on est tous d'accord, si on est tous lecteurs ici, que c'est quand même une figure tutélaire de la scène éditoriale française. Enfin, c'est, elle a fait des bouquins qui ont marqué leur époque et qui ont pour la plupart plutôt bien vieilli d'ailleurs. Donc Virginie Despentes. En plus, elle a un style. Elle a vraiment, elle est reconnaissable.
Oh, oui.
Ensuite, qui est-ce qui est en troisième?
Emmanuel Carrère.
Emmanuel Carrère, pareil, qui avait fait donc dans la même rentrée littéraire qu'Hervé, qui avait sorti Yoga. Donc bon, Emmanuel Carrère, pareil, je pense que si on est entre lecteurs, je pense que tout le monde a croisé Emmanuel Carrère et c'est à peu près le genre de littérature qu'il fait.
Aurélie
Valogne. Alors là, pour moi, c'était une découverte.
Personne ne savait. Moi, dans mes amis, mais qui c'est? Elle fait 2 millions d'exemplaires, mais personne ne sait qui c'est.
Est-ce que quelqu'un a lu Aurélie Valogne? Non.
Tu te rends compte?
Oui. Toi. Bah oui.
Non, mais elle,
enfin, Aurélie Valogne, pour vous situer, c'est de la littérature qui fait du bien. Donc c'est un peu... qui fait du bien, pas tout le monde, mais en tout cas, ouais, c'est lectrice. Parce que c'est aussi très féminin comme lectorat. Elles sont plusieurs sur la scène littéraire française à faire ce genre de livre. Mais elle fait des bouquins comme Mémé dans les orties, oui. La cerise sur le gâteau.
Mais elle fait 1 million d'exemplaires.
Voilà, en général, il y a un petit animal mignon en couverture. C'est franchement, ça fait pas de mal. Ça fait peut-être pas de bien, mais ça fait pas de mal. Et donc voilà, il y avait cette veine littéraire qui m'intéressait d'aborder, et je pense qu'elle est une très bonne représentante de cette veine.
Je crois c'est une femme très sensible, m'a-t-on dit, et elle l'a pas très bien pris. Je ne comprends pas parce que Aurélie s'est levée du pied gauche et depuis elle marche à côté de ses pompes. Elle doit prendre le train à Austerlitz, elle est sacrément à la bourre. Effectivement, toutes ces expressions qui reviennent...
Oui, c'est en fait, donc j'ai fait un enfilage d'expressions. Et surtout, j'ai essayé de créer un univers qui, à l'image des couvertures. Où il y a, enfin, vous voyez, il ne faut pas être trop diabétique parce que c'est tellement sucré qu'au bout d'un moment, on a un peu de mal. Voilà, donc, mais je me suis amusé pendant un chapitre. Sachant que derrière, il y a quand même... elle vend des masterclass. Donc vous trouvez sur internet apprenez à écrire avec Aurélie Valogne,
oui.
et apprenez à écrire comme Aurélie Valogne. Donc il y a quand même un enjeu commercial avec lequel je me suis aussi amusé un peu parce que voilà, c'était un ressort comme un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans...
Alors Emmanuel, pourquoi Emmanuel Carrère, yoga
Emmanuel est-ce Carrère, que tu as demandé parce qu'il était dans la rentrée, oui. Donc dans la même rentrée.
Est-ce qu'il t'a demandé ton avis pour le choix des fusillés, si je puis dire? Non, bon. Non. Emmanuel, pour toi, le point fort d'Emmanuel Carrère, c'est quoi?
C'est une espèce d'introspection et de mise en scène aussi de lui face à la misère qu'il côtoie. Et donc, à un moment dans le bouquin, il se demande si c'est pas lui qui porte malheur aux gens qu'il rencontre, parce que en fait, il est tout le temps en contact avec... Quand il va en vacances en Thaïlande, il y a un tsunami. Quand,
c'est vrai, en plus.
Il va à Lyon chez son ami le juge. Le juge se fait amputer et il est face à des polis endettés, enfin, etc., etc. Donc, il y a cette mise en scène de lui. Il y a surtout une musique, parce qu'il faut aussi, pour le pasticheur, pouvoir repérer une musique. Donc, Aurélie Valogne, j'ai dit, c'est facile. Carrère, c'est assez jouable. Tesson, c'est assez facile, finalement.
Tesson, il arrive à Austerlitz, courtes. Il ne peut pas monter par la porte, bien sûr, il passe par la fenêtre, bien sûr, ça commence très fort.
Oui, Tesson escalade, c'est un de ses dadas. Je ne sais plus quels sont les autres auteurs.
Virginie, 11h17, oui, putain, ça avance pas. Virginie à la dalle, normalement, dans le train du livre, on commence à bouffer vers 11h, il y a peut-être eu un blême en cuisine. Bon, tout de suite,
oui, il y a ce vocabulaire qui est un peu punk rock, mais années 80 quand même, oui. Qui est un peu désuet souvent. Et puis surtout, il y a cette espèce de Virginie Despentes, c'est notabilisée, c'est-à-dire qu'elle a quand même, elle est plus au Goncourt là, mais elle a été au Goncourt. Donc en fait,
elle a démissionné, je crois, c'est ça.
Oui, elle a démissionné, ce qui est plutôt élégant d'ailleurs. Mais sa crédibilité de punk et de rebelle, d'éternel rebelle, en avait pris un petit coup. Et donc, je m'amuse à mettre en scène cette ambiguïté-là. Et là, notamment, elle console Delphine de Vigan, qui n'a toujours pas eu le Goncourt. Et d'ailleurs, donc, le bouquin se passe en novembre 2021, c'est-à-dire en ce moment. Et Despentes lui dit, mais t'inquiète pas,
écoutez ça.
Enfin, ma chère Delphine, tu ne l'auras pas cette année. Cette année, ce sera un noir.
incroyable.
C'est dans le bouquin. Donc, oui. Mais parce que c'est dans l'époque. Hein. Enfin, c'est,
mais quand même, c'était quand même très fort de ta part c'est d'ailleurs, d'imaginer.
Ouais. C'est d'ailleurs pas, c'est très bien. Enfin, j'ai aucun problème avec ça, évidemment. Et donc, on arrive à Hervé Letellier, oui, voilà. Puisque c'est un des...
Derniers pastichés.
Voilà, c'est un des pastichés qui a le rôle central, puisqu'en fait, je montre qu'il a écrit l'anomalie en ayant mis au point une machine. Est-ce que vous connaissez ce bouquin, ce livre-objet qui s'appelle « Les 100 000 milliards de poèmes » de Quenoé ? Donc, c'est un bouquin qui est en fait une machine à fabriquer 100 000 milliards de sonnets. Donc c'est un bouquin qui se présente avec des bandes et on, selon la façon dont on des languettes, selon la façon dont on insère une page qui est prévue à cet effet, on crée 100 000 milliards de poèmes. Et alors ça, j'ai pas reconté, mais il y a une formule mathématique qui démontre que
très simple.
Méfiez-vous quand il dit c'est très simple.
Président Loulipo.
Et dans le micro, s'il te plaît, Hervé.
Ben, y a 10 façons de prendre le premier, 10 façons de prendre le deuxième, donc ça fait déjà 100. Et puis vous continuez comme ça, 1000, 1 million. Puis comme il y a exactement 14 vers dans un sonnet, ça finit par faire 10 puissance 14. Donc 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 14 fois. Et ça fait 100 000 milliards de poèmes. C'est simple.
Voilà, donc j'ai imaginé que sur ce principe, sur ce générateur de poèmes de Queneau, Hervé le perfectionnait et en faisait une machine capable d'écrire l'anomalie. Ce qui explique le succès phénoménal de ce bouquin, puisqu'il est calibré de façon, et là on rentre dans ta cuisine Hervé, il est calibré de façon à ce qu'il y ait à peu près tous les styles romanesques, que tous les styles romanesques soient représentés, et aussi il répond à un certain nombre de contraintes que tu as données toi-même à la machine. Et là on arrive au secret de fabrication de l'anomalie.
Oui, c'est-à-dire que quand on regarde le livre de Pascal, on voit qu'il se moque gentiment, du système du cliffhanger. C'est-à-dire que dans la plupart des best-sellers américains, qui était pour moi le système qui m'intéressait à pasticher, puisque moi aussi je pastichais quelque chose qui était le best-seller américain, il y a à la fin de chaque chapitre une sorte d'argument de relance qui fait qu'on reste accroché à ce qui se passe à la fin du chapitre et on passe à un autre. Et dans le tien, chacun des chapitres se termine par « et c'est alors que… » et puis il n'y a plus rien. Quand soudain… Et il n'y a plus rien. Donc, tu tends à résumer à l'extrême la démarche qui était présente dans l'anomalie, dans laquelle à chaque fin de chapitre, il y avait l'arrivée d'une agence américaine, NSA, FBI, CIA, ou en France, une commissaire de police. Et donc, ce système qui, à chaque fois, interrompt le chapitre et qui fait qu'on passe au suivant avec cette idée à la Tintin. Vous savez, moi, ce que tout le monde aime dans Tintin, c'est qu'on arrive en bas de la page et c'est impossible de ne pas tourner. Parce qu'en bas de la page, il y a une sorte de système qui est normal puisque c'est publié en feuilleton. Donc la dernière case en bas à droite, elle donne envie de remonter en haut à gauche. Quoi. Et c'est ça le principe que dans toutes les bandes dessinées, dans tous les feuilletons. Donc on retrouvait ce système du feuilleton dans le roman L'Anomalie. En tout cas, dans la première partie, puisque la première partie est entièrement basée sur ce système-là, et c'est ça qui m'amusait. Et puis après, ça change complètement, mais en tout cas, la première partie fonctionne comme ça, et la tienne aussi.
Et sauf que
et
moi,
t'as vu la machinerie et
alors comment tu as fait
et voilà.
Sauf que moi le cliffhanger on découvre qu'en fait il est dû à un bourrage papier,
c'est ça,
de ta machine,
c'est ça.
Donc je désamorce le truc, mais je voulais quand même faire un sondage parce que en tant que pasticheur ça m'intéresse, qui on est entre nous hein, qui a repéré que dans le bouquin d'Hervé dans la partie installation des personnages, c'est-à-dire avant tous des règles, qui a repéré que chacun des chapitres, chacun des personnages était campé dans un style particulier, dans un style, qui a repéré l'aspect pastiche de cette écriture. Par exemple, que l'écrivain, quand il fait, plutôt commençons par le serial killer est écrit, quelle est la première phrase du bouquin ?
Tuer quelqu'un, ça compte pour rien.
Voilà. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Donc tous les profs de français, même les lecteurs attentifs, repèrent qu'il manque
le nœud.
Donc on est dans un registre polar. Deuxième perso, c'est Victor, c'est ça ?
Mmh.
Ouais. Donc c'est un écrivain un peu rive gauche, enfin bon. Et le chapitre est écrit dans ce style-là, avec cette musique-là. Qui avait repéré ça dans le...
Je crois que c'est pas fait pour que ça se voit, en fait.
C'est pas fait pour que ça se voit, mais c'était une de tes contraintes.
Non, mais
bien sûr, vous me soulagez aussi.
Parce que... Mais toi qui l'as examiné de près, t'as vu que oui. ça fonctionnait comme ça.
J'ai fini par le voir. Mais voilà. Je continue de découvrir des contraintes que tu t'es fixées toi-même pour écrire ce bouquin et qui sont invisibles au lecteur.
Oui, mais c'est-à-dire que le problème du pastiche de genre, moi je voulais que chacun des personnages soit associé à un genre pour qu'il y ait une sorte d'identification naturelle entre le style et le personnage, de manière à ce que, vu la diversité que j'avais mise en place, vu le côté un peu foisonnant du roman, il y a une sorte de naturel dans la lecture qui puisse permettre au lecteur justement d'aller de manière fluide d'un chapitre à l'autre. Donc j'ai gommé, j'ai effacé ce qu'on peut appeler l'expérimentalité absolue qui aurait fait que j'aurais eu un chapitre très 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 à la Chandler pour arriver à un chapitre à la Tom Wolfe,
oui,
ou un chapitre moins à la Mark Levy qu'un chapitre à la Richard Curtis. Si vous aimez les scénarios de Richard Curtis, Quatre mariages, un enterrement, Notting Hill, etc., ce qui est l'aventure en permanence oui. d'Adrian et Meredith, qui vivent une sorte
tout
de...
Tout ça, c'est évident.
Voilà. Mais non, mais c'est gommé parce que justement, une fois de plus, je souhaitais un livre fluide dont l'expérimentalité soit lissée. Mais il y avait de mon côté, si on isolait chacun des chapitres consacrés, enfin, chacun des personnages, pardon, de chapitre en chapitre, et si j'avais fait une deuxième table des matières à la fin, qui aurait été beaucoup moins, chronologique, mais beaucoup plus didactique, où j'aurais dit histoire de Markle, histoire de Meisle, histoire de Blake, on aurait pu, à la lecture, identifier les styles de manière beaucoup plus forte. Oui. Par exemple, quand on lit Adrian et Meredith, on a tout le temps de sourire aux lèvres. Mais quand on lit Markle, on ne peut jamais rigoler. Donc, ce travail sur les genres, c'est un travail qui doit être gommé si on veut que le livre fonctionne pour le lecteur que je m'étais fixé, qui était tout le monde. Et puis, il y a différentes couches, parce que je pense que ce que dirait Moncono sur les romans est juste. Les romans sont comme des oignons, c'est-à-dire qu'il y a différentes couches, et ce n'est pas grave si le lecteur, de manière générale, n'accède pas à toutes les couches. Et d'ailleurs, il n'y a aucun lecteur qui peut accéder à toutes mes couches. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'on puisse deviner qu'un début de chapitre est piqué sur un roman de... Enfin, pas piqué, mais une transformation, une altération, un déplacement d'un roman.
J'ai essayé de rendre ça. Donc, moyennant ce qu'il vient de dire, vous imaginez le boulot quand on essaie de pasticher Hervé Le Tellier. Parce qu'il fallait rendre ces
cours. Tu le rends de fait par le système que tu as adopté, qui est d'avoir des auteurs différents.
Oui, alors déjà, donc ça répondait à ton système, mais il y a des contraintes. Par exemple, il y a les 106 jours, je peux en dire deux mots, y a les deux avions atterrissent à 106 jours de différence.
Vas-y, oui.
Pourquoi 106? Je vous rassure, je ne l'ai pas deviné.
Oui.
Pourquoi 106? Parce que c'est 2 fois 53.
Et c'est évident.
53.
53 jours, c'est le dernier livre de Georges Perec.
Voilà.
Lever le doigt ceux qui écoutent France Culture et ceux qui écoutent Rire et Chanson.
Voilà. Non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire que pour moi, c'est des chiffres symboliques. Il y a 243 passagers dans le livre, donc plus avec les hommes d'équipage ou femmes d'équipage. Donc ça veut dire que 243, c'est 81 fois 3. Donc Et c'est un livre de Perec qui était dédié à Calvino, qui s'appelle 243 cartes postales en couleur véritable. Et ce système des 243 cartes postales en couleur véritable m'a donné, en fait, mes 7 personnages dupliqués qui m'ont permis de construire le livre. Mais on s'en fout, c'est-à-dire que...
C'est tellement évident.
C'est pour moi. C'est-à-dire que le but, une fois de plus, c'est un cahier des charges que je me fixe. Et très sincèrement, ce côté expérimental du roman m'a amusé parce que c'était une aide, d'une certaine manière, à la création. Là, vraiment, une sorte d'outil principiel qui permet de créer le texte. Et j'ai été étonné du succès du livre parce que le livre était un livre qui, malgré tout, était quelque peu expérimental. Donc, c'était une bizarrerie que j'arrive à 1 million de lecteurs avec un livre qui, pour moi, était destiné à un maximum de 50 000.
Alors, ça, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est la chose qui me frappe le plus, qu'un bouquin aussi compliqué, quand même.
Mais c'est pas un bouquin compliqué.
Tu peux le lire de manière totalement innocente.
J'ai cette idée que c'est un bouquin qui, pour moi, référence plus à Michael Crichton, enfin autant, disons, d'une certaine manière, à Michael Crichton qu'à la vie mode d'emploi de Perec. La construction systématique de la vie mode d'emploi avec. C'est un livre qui est construit sur la base d'un immeuble, donc immeuble qui est un immeuble dans lequel il y a 9 niveaux et 9...
Il y a une coupe sagittale de l'immeuble.
Voilà, une coupe sagittale de l'immeuble qui permet donc d'avoir effectivement 100 cases. Il y a exactement 8 étages avec les combles, mais il y a un rez-de-chaussée et des caves, ce qui veut dire qu'en tout, il y a 100 niveaux. Et puis en plus, il y a des fenêtres plus la cage d'escalier. Donc en tout, si on fait le compte, il y a 100 chapitres, 99 exactement. Parce qu'il se déplace de case en case et de pièce en pièce.
Mais il ne se déplace pas n'importe comment.
Il ne se déplace pas n'importe comment. Selon la polygraphie du cavalier, qui fait qu'on déplace un cavalier sur un damier, parce que c'est un damier, un 10-10, hein, ce n'est pas un échiquier. On déplace un cavalier sur un damier et il parcourt toutes les cases sans en éviter aucune et sans repasser deux fois par la même. Donc, c'est compliqué. Bon. Mais on se fout en lisant la vie mode d'emploi que ça fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, le drame de Pérec, c'est que le cahier des charges de Georges Pérec a été publié après sa mort. C'était pas du tout son... Oui, mais c'est formidable, mais c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'il n'était pas à quelconque instant... il est mort en 82 et le livre est paru en 78. Donc il a eu 4 ans pour réfléchir et il aurait pu publier le cahier des charges. Il ne l'a jamais fait. Donc cette idée de publier le cahier des charges lui était étrangère. Donc il avait un désir de ne pas présenter à ses lecteurs ses contraintes. Désir que je comprends parce que c'est très... comment dire, ça va ensuite orienter la lecture dans une dimension qui n'est pas forcément celle dont je parlais, c'est-à-dire l'idée de lire comme un oignon avec la première couche. Il faut pouvoir lire ce livre, qui d'ailleurs est sous-titré « roman » avec un S, comme si c'était un roman de roman. Et c'est ça qui est intéressant.
Mais encore une fois, l'honnête pasticheur qui s'attaque à l'anomalie ne peut pas faire semblant d'ignorer qu'il y a plusieurs pelures dans l'oignon.
Non, tu peux pas.
Et surtout, il doit en jouer, parce qu'il ne doit pas, évidemment, le propos n'est pas du tout de se donner soi-même de nouvelles contraintes, mais de s'amuser à se moquer de ces contraintes. Et c'est pour ça que j'ai à la fois fait des emprunts, comme tu le fais, et des références à tes auteurs, au Panthéon ou Lipien, et aussi, c'est aussi pourquoi j'ai mimé ta fin. Oui. La fin de l'anomalie qui, j'espère, vous a tous rendu perplexes. Alors donc moi, je l'ai mimé avant de savoir comment Hervé l'avait construite. Mais finalement, ça marche, quoi. Enfin, ça marche à peu près, mais tu peux peut-être expliquer enfin à ton public comment tu as conçu la fin de l'anomalie.
Alors bon, on va spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ce n'est pas grave. La fin de l'anomalie se termine par une sorte de calligramme qui, en fait, pour moi, est un sablier. Donc, c'est le sablier du temps, c'est la granularité du temps. La granularité du temps, en physique quantique, voilà, on a l'impression d'une continuité du temps, c'est-à-dire que le temps est continu, mais de plus en plus, on se dit que le temps est granulaire. C'est-à-dire qu'il passe un peu comme quand on regarde une horloge dans les gares allemandes, où les secondes, elles font comme ça. Toc, 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 voilà. Et en fait, le temps, semblerait-il, peut passer comme ça, de manière granulaire. Donc ça m'intéressait de voir cette granularité du temps. Et donc le livre se termine par le mot fin, mais il se termine aussi par le mot sable, si on regarde mieux, par sable fin. Et donc ça donne l'idée du... voilà. Ce qui est difficile à traduire, les traducteurs étaient dingues, mais bon, ça c'est pas mon problème. Et puis, si on regarde un petit peu avant, il y a d'autres mots qui apparaissent, qui sont des mots de mon panthéon. Et donc, il y avait Ulcération de Georges Perec, qui fait référence au roman, qui fait référence à la première bibliothèque oulipienne parue dans la bibliothèque oulipienne, donc un livre de Georges Perec. Et avant, il y a le mot être.
Alors, pourquoi Ulcération ?
Ulcération, c'est en fait un texte illisible de Georges Perec, qui est très intéressant en revanche, parce qu'il n'est composé ligne par ligne que par les lettres qui sont présentes dans le mot ulcération. C'est-à-dire les 11 premières lettres présentes en termes de fréquence dans la langue française. En fréquence en France, c'est esartinuloc. C'est-à-dire que le E est la première lettre, présente pour quasiment, je ne vais pas dire des bêtises, mais 14 à 15% des lettres dans un texte sont des E. Et puis ensuite, on diminue, un peu plus, peut-être même 20%. Et ensuite, on a le S, puis le voilà, puis le A, puis le R, puis le T. Et on arrive au bout avec 11 lettres qui composent quasiment... avec lesquelles on peut écrire énormément de mots de la langue française. C'est pas mal sur 26. Et donc il prend ces 11 lettres et il compose un texte qui est un texte poétique, mais incompréhensible, qui respecte cette règle que chacun des vers à 11 lettres n'utilise qu'une seule fois chacune des lettres et ne se retrouve jamais à la même place dans le texte. Ce qui est d'une complexité dingue. Voilà, moi, ça, c'est pas un genre de jeu qui m'intéresse, mais Georges Kenneck, c'est vraiment une remarquable preuve de savoir-faire.
Donc tu lui fais un petit salut au passage.
Donc je fais un petit salut à Ulcération, qui est en fait un salut à la langue française, de manière générale, qu'il a fallu que j'explique à pas mal de traducteurs également. Je ne sais pas comment aux Chinois ils ont fait ça, mais bon, ça c'est leur problème. Et donc cette idée, c'est que, et pour finir, c'est que on voit que le texte s'efface. C'est-à-dire qu'en fait, le texte s'efface et je conserve dans le texte que moi j'avais créé les lettres qui vont composer être, ulcération, sable et fin. Mais je ne conserve que ces lettres-là et je fais disparaître toutes les autres. Donc en fait, ce n'est pas tout à fait des mots que j'ai choisis, c'est des mots qui réapparaissent dans le texte à la suite de la suppression d'autres lettres. Donc c'est pour moi l'idée de la potentialité, c'est-à-dire que chaque lecteur peut composer, en fait, une description du monde, qui était celle que j'avais au départ, qu'on voit commencer, puisque on voit comment ça commence. Il décrit un pneu crevé dans une banlieue de Mumbai, ensuite un enchaînement d'images, qui toutes visent à décrire le monde dans sa singularité, dans son unicité, et simultanément dans sa banalité. Et donc c'est un texte de description relativement banal, sauf vers la fin, pour des raisons... Voilà. Et qui permettent à un lecteur qui a envie de jouer avec ça, de le faire lui-même et d'essayer de recomposer ce que de manière impossible, parce que Gallimard a complètement détruit ce que j'avais envoyé, parce qu'ils n'ont pas voulu m'envoyer la maquette finale, donc je n'ai pas pu faire avec la maquette finale, avec la typo, par exemple. Je voulais la typo.
Changer la typo aussi.
Je voulais avoir la typo de Gallimard, exactement.
Ah, oui.
Pour pouvoir justement travailler avec la typo de Gallimard, oui. La justification de Gallimard, etc. Tu vois, pour avoir un truc vraiment très fidèle et faire disparaître les textes. Mais j'avais peur qu'en envoyant le texte avec d'un côté du texte noir et du texte en blanc, qu'au moment où j'envoie le PDF, enfin pour rentrer dans les détails, Le blanc apparaît en gris, ce qui n'était pas mon projet, quoi. Donc j'ai eu peur de ça et je leur ai envoyé finalement le texte avec en remplaçant chacune des lettres par un espace insécable, ce qui a décalé tout le truc. Enfin,
Donc, encore une fois,
c'est l'idée de la potentialité, l'idée que le lecteur, à un moment donné, à la fin, doit pouvoir agir sur son livre parce que c'est son livre. C'est ce que fait Raymond Queneau dans l'exercice de style, je vous le rappelle, où à la fin il dit faites le vôtre. Il n'y a pas 100 exercices de style dans l'exercice de style, il y en a 99. Et à la fin, il y a une page blanche, et il dit à vous. Et moi, j'aime bien cette idée de la définition même de la potentialité, c'est-à-dire que le lecteur a le droit d'intervenir sur le livre de l'auteur.
Mais alors, en acceptant d'être pastiché, en pensant que c'était un honneur, d'ailleurs, tu as dit, il fallait trouver un pasticheur génial. Parce que, coup de chapeau, est-ce que tu peux nous dire en deux mots comment tu as réussi alors l'histoire, on la connaît maintenant. Comment tu l'as appliquée au train? Justement, l'histoire de train qui s'arrête. Hier, on m'a téléphoné, je ne suis pas le seul, quand on était bloqué en gare, en disant « Ah, mais c'est l'anomalie du train ». Enfin, bref. Raconte en deux mots comment tu as pu pasticher et transformer l'histoire de l'avion dans un train, justement, qui l'avion arrive deux fois, en deux mots.
Oui, l'avion arrive deux fois. Moi, c'est le train des auteurs qui arrive deux fois. Donc, ça permet de mettre les auteurs face à leur double. Enfin,
oui, c'est très clair.
J'ai essayé de pasticher la démarche oulipienne. C'est l'éternel débat qu'on a avec Hervé, qui, moi, lui, il me dit que c'est très fertile, que cette contrainte-là est souvent fertile.
C'est le mot par excellence.
Et moi, je dois être mauvais élève parce que... Oui. Donc, je m'en moque un peu. Mais il se trouve que je mets mes auteurs face à leur double. Donc, Joël Dicker, on imagine un jeune homme ambitieux qui se retrouve face à un autre jeune homme ambitieux. Il y en a un qui veut monter sa boîte, l'autre qui veut aussi. Donc, ils sont en concurrence. Je mets Emmanuel Carrère, qui est bipolaire, donc il devient quadripolaire, forcément, puisqu'il est face à lui-même, etc. Enfin, j'ai essayé moi-même de jouer sur les combinaisons possibles, les cas, qu'est-ce que ça pouvait donner. Des pentes, elle en profite pour... elle laisse son double à la Foire du Livre signer des bouquins, et elle va faire des courses comme une honnête bourgeoise. Elle fait du shopping à Brive, enfin, etc., etc. La fin, comment j'ai bien pu pasticher cette fin tellement lothélienne. En fait, j'ai pris les derniers mots de la vie mode d'emploi, justement, pour mettre du Pérec dedans. Et j'ai imaginé que la machine qu'avait inventée Hervé se mettait à déconner.
Oui.
Et donc, en fait, je renvoie...
c'est ça ?
Pardon ?
Bourrage papier.
Alors, il y a d'abord un bourrage papier. Et ensuite, pour la fin du bouquin, c'est carrément une machine que la femme de ménage d'Hervé...
C'est son vrai nom, d'ailleurs.
Va Madame... Oui, j'ai imaginé qu'Hervé avait une femme de ménage dont le nom et le prénom étaient des palindromes. Parce qu'en fait, il fallait faire exister l'Oulipo. Elle fait aussi des lipogrammes de 26 lettres. Autrement dit, elle reste silencieuse. Enfin, vous voyez, j'ai joué avec les jeux de l'Oulipo. J'ai essayé de les réintégrer dans le flot du bouquin, ce qui franchement n'est pas facile. Mais finalement, c'est peut-être un exercice oulipien de se moquer de l'oulipisme.
Oui, l'oulipien se moque de l'oulipien sans aucun problème. Bon, je voudrais prendre un exemple de ton travail.
Tu veux?
J'ai devant moi, je trouve ça tellement drôle. Bon, dans le livre L'Anomalie, évidemment, lorsque l'avion est dupliqué et qu'il réapparaît dans le ciel... à l'est de New York, je suis très mal latéralisé. Évidemment, il y a une sorte de branle-bas de combat, on convoque la sécurité aérienne, on convoque le NORAD, le Pentagone s'en mêle, on envoie des avions, etc. Et surtout, on vérifie l'identité du pilote, parce que c'est pas normal qu'un pilote réapparaît, donc on demande beaucoup de questions au pilote, le mien s'appelle Markel, pour vérifier qu'il est bien le pilote de cet avion-là et qu'il est bien, qu'il n'est pas une sorte, ce n'est pas une opération terroriste. Et voilà ce que fait mon camarade Pascal. Donc cette fois-ci, c'est le centre opérationnel de gestion des circulations de Toulouse qui appelle. Et je vais reprendre un peu ce qu'avait fait dans une lecture qu'a fait récemment une bande d'amis aux Zèbres de Belleville. Je vais reprendre un peu leur accent. Train 006 pour Brive. Ici le centre opérationnel de gestion des circulations de Toulouse. Ici Train 006, j'écoute à vous. Mon nom est Jean-Michel Bourcard, mais vous pouvez m'appeler Captain Cook. Captain Bourque, ce sera plus euphonique. Je suis superviseur au GOGC de Toulouse. J'ai besoin de contrôler 2 ou 3 bricoles. Pouvez-vous me citer les 3 derniers regards que vous avez traversés ? Le conducteur Stéphane Goutard, que tout le monde appelle Steve, grimace mais s'exécute. À la sac, Gignac reste en sac et Malemort la font. Mais maintenant, je vous écoute, Captain Bourque. Pourquoi sommes-nous bloqués sur au PK-490 ? Bien reçu, Steve, merci. Avant de vous répondre, je dois vérifier quelques détails. Pouvez-vous me rappeler vos dates et lieux de naissance ? 12 janvier 1973, Marne-la-Vallée. Ok. Nom et surnom de votre locomotive actuelle. CC6557, surnom Monique. Les dates des prochaines grèves prévues par Sudrail. Steve hausse les épaules mais obtempère. Vacances de la zone C, départ de la Toussaint, pont du 11 novembre. Voilà, c'est bien la preuve que c'est la SNCF.
Donc
ce n'est pas qu'un hommage à la SNCF, c'est aussi un hommage à Sudrail.
Oui, qui devrait être là d'ailleurs.
Un clin d'œil.
Donc en gros, puisque...
Qui est dirigé par des amis à moi. En plus.
Le thème de ce débat, c'est le pastiche. On va terminer quand même en parlant vraiment de la technique du pastiche, parce que tu as vraiment montré...
On va prendre des questions. Surtout.
Oui, on va des questions. Je voudrais juste terminer par une anecdote, tu te souviens quand tu as fait le premier, donc le Gay Vinci Code, qui a eu beaucoup de succès, qui est sorti du Marais et qui est même allé un peu partout. On était en salon du livre à Nancy, je crois, et il y a un vieux monsieur, un monsieur d'un certain âge, je ne vais pas dire vieux, et qui avait une rosette sur canapé, et il voit le Gay Vinci Code. Ah, ça y est, c'est formidable, mes enfants me disent que je dois l'acheter. Et on lui dit, mais vous savez, c'est pas le... Non, je le prends. Donc il a acheté le Gay Vinci Code en croyant acheter le Da Vinci Code, on n'a pas suivi.
Voilà, on est dans le règne du faux.
Voilà. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est pas une question, mais la différence d'abord entre le pastiche et la parodie, toi tu as une technique formidable quand on lit ce bouquin, quand on lit tout, c'est vraiment... Alors, en gros, pour toi, alors il y a eu Rabelais d'abord, il y a eu dans les grands du pastiche.
Oui, mais on peut dire aussi que en fait, ça commence avec Aristophane. Enfin,
Tu as connu
Oui, je l'ai bien connu. C'est à peu près parallèle à l'histoire de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours eu cette velléité de faire de la littérature sur la littérature. Initialement, c'est un exercice d'admiration et ça se passait dans les ateliers, notamment des peintres de la Renaissance, où on commençait par faire à la manière d'eux ses maîtres et pour ensuite atterrir dans son propre style. Celui qu'on sort toujours comme alibi culturel quand on fait du pastiche, Proust. C'est évidemment Proust.
Oui.
Donc qui en 1908 a fait un pastiche sur un fait divers qui était l'affaire Lemoine. C'était l'histoire d'un escroc qui avait fait croire qu'il avait mis au point une machine à fabriquer des diamants. Et donc il a écrit le procès et disons les délibérations à la manière d'eux. Donc il y a Balzac, Flaubert, Sainte-Beuve. Les frères Goncourt.
On peut les trouver, ça
oui, oui, bien sûr, ça se trouve. C'est un bouquin qui s'appelle, c'est en Pléiade, même, s'appelle Pastiche et Mélange. Et il a réutilisé d'ailleurs son pastiche du journal des frères Goncourt dans le dernier tome de La Recherche, dans Le Temps Retrouvé. Il y a un bout de ces pastiches et mélanges. Et il disait cette phrase, qui pourrait être une conclusion comme une autre. Il dit, pour ce qui concerne. Il faut que je retrouve. Je ne saurais trop recommander aux écrivains la vertu purgative du pastiche. Il faut faire un pastiche volontaire pour pouvoir, après cela, redevenir original, ne pas faire toute sa vie du pastiche involontaire. Et quand on est des lecteurs un peu gourmands, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de. Enfin, que l'originalité ne règne pas forcément en maître. Donc il y a des gens qui font du pastiche involontaire.
Oui.
Donc autant dire quand on en fait, autant l'assumer, voilà. Et il disait qu'il a j'ai eu besoin de tuer Flaubert pour devenir Proust. Donc en fait il les admirait sincèrement, Balzac, Flaubert, etc.
Il faut que tu tues le tellier pour voilà.
Oui. Oui,
d'accord.
Voilà.
Non.
Donc mais c'était.
Tu dis que c'est un exercice d'admiration. Alors Aurélie Valogne.
Oui, c'est un peu focus. Ça. C'est ce que je dis dans les classes, dans les lycées. C'est pour encourager c'est pour encourager aussi les lycéens et voir les étudiants à écrire à la manière.
Il y a un bouquin qui est d'ailleurs scolaire hein, en édition.
Oui, et si c'était né, est sorti en édition scolaire. Oui.
Donc ça veut dire que le pastiche est grâce à toi est en train de devenir un.
Non,
genre.
Grâce à toi, Jean-Loup, je te rappelle.
Non, mais j'en ai un autre. Non,
etc.
Bon, mais. Donc, on termine. Il y a Rebou et Muller qui étaient des grands pasticheurs.
Oui, Rebou et Muller, début
du 19e.
Non, début, oui, début
oui,
20e,
oui,
disons.
Oui, oui.
Ensuite, il y a quand même.
Ce qui est intéressant dans Rebou et Muller, c'est qu'il y a des textes qu'on ne connaît plus du tout. Pastiche Maeterlinck. Oui.
Non, on ne connaît pas.
Maeterlinck, oui. Peu de gens connaissent quand même Maeterlinck. Donc, quand tu lis Rebou et Muller, tu as Maupassant, je crois.
Il y a Maupassant.
Il y a Proust.
Il y a Proust.
Tout ça se reconnaît. Puis il y a des textes qui ont totalement été oubliés.
Voilà. Il y a des auteurs qui ont disparu. Donc
voilà.
Je pense que dans ma galerie de pastichés, il y a des gens que la postérité ne retiendra pas. Mais il y a aussi des gens dont on pourra lire le pastiche dans 50, 100 ans. Moi, je pense que le tellier sera toujours lu. Donc le pastiche fonctionnera toujours.
Et avant de passer aux questions éventuelles, j'ai vu dans le Parisien, on te posait la question de savoir quels seraient tes prochains livres. Et alors là, tu as dévoilé pas mal de choses, non ? Qu'est-ce que
j'ai surtout dévoilé que je n'allais pas faire le même livre.
Oui.
Voilà. Le problème quand on sort de l'anomalie, hein, c'est il y a deux désirs. En fait, il y a deux désirs simultanés. Le premier désir, je dois l'avouer, c'est qu'un écrivain que j'aime bien vienne me voir en disant. Hervé, j'ai une idée drôle, dis-moi ce que t'en penses, j'ai une idée pour la suite, qu'est-ce que t'en penses qu'on la fasse ? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on me propose, parce que moi, j'ai la flemme.
La suite de l'anomalie, tu veux dire ?
Oui, la suite de l'anomalie. Moi, j'ai la flemme, j'ai plus envie, je suis allé au bout du projet tel que je le concevais, je travaille sur la série, et donc je travaille sur quelque chose qui est une sorte de suite elle-même de l'anomalie, mais qui n'est pas pour autant la suite littéraire de l'anomalie, qui est une suite sur un autre support, sur un autre projet, donc c'est une chose. Donc j'ai pas envie de la faire, donc ça m'intéresserait. Et puis il y a deux choses que j'ai jamais fait de ma vie et qui m'intéressent. La première chose, c'est le roman historique. Je n'ai jamais fait. C'est-à-dire un roman qui se place dans une époque qui n'est pas la nôtre. Et je dois dire qu'il y a une époque qui m'intéresse plus que toute. C'est ce basculement entre le christianisme, enfin le polythéisme et le christianisme, entre l'Empire romain et ce qu'on appelle les barbares, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué que les barbares, et le début de la connaissance de ce qu'on appelle la géographie. qui ne s'appelle pas encore la géographie, mais qui est le début de la cartographie. On essaie de connaître le monde. Et donc, c'est le troisième, quatrième siècle, voilà, qui en plus est un siècle sur lequel on ne sait pas grand-chose. J'ai interviewé des spécialistes de l'Empire romain et de l'histoire romaine, et franchement, c'est des siècles où j'ai une grande liberté de travail parce qu'on ne sait pas grand-chose. Et
comme ça ne viendra de contredire, évidemment.
Si, j'aurais forcément des gens qui ne seront pas d'accord, mais j'ai d'abord les interviewés avant de les avoir qui me tombent sur l'orable. Et je m'intéresserai surtout à la place des femmes à cette époque, parce que les femmes n'existent pas pendant l'Empire romain. Elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de patronyme, elles n'ont pas de prénom. Elles s'appellent comme elles s'appellent, et dès qu'elles épousent un Livius, elles s'appellent Livia. Elles appellent un Claudius, ça s'appelle Claudia. Donc elles disparaissent, quoi. Et donc comment fait une femme pour exister? Et à mon avis, elle fait pour exister en faisant front avec un autre homme. Donc je pense qu'avec un homme qui perçoit en elle toutes ses potentialités, il va l'utiliser et il va l'autoriser à prendre une place dans le couple qui fait qu'elle peut exister. Mais ça, c'est une hypothèse possible, il faut que j'en discute assez longuement, mais c'est impossible qu'il y ait... Les seules femmes qui comptent dans l'Empire romain, c'est en gros les impératrices, hein, c'est-à-dire, voilà. Et puis les héroïnes qui nous sont parvenues, comme Sainte-Geneviève d'Anières, enfin...
Et les déesses.
Et les déesses, qui ont un rôle très important, qui sont très bizarrement ultra importantes dans la mythologie, avec des places qui sont équivalentes à celles des hommes, dans la mythologie, alors que dans la vie quotidienne, les femmes n'ont pas de place. C'est très étrange, en fait, ce phénomène d'équilibre entre, par exemple, Junon et Jupiter, entre Aphrodite et Mars, qui ont vraiment des places équivalentes, mais alors que dans la société elle-même, les femmes n'ont pas de place. C'est très, très étrange. Donc voilà, il y a ce premier sujet qui m'intéresse. Et puis un deuxième qui m'intéresse, qui est rendre hommage à un inconnu. Et je trouve que sur le mur de ma maison, dans la Drôme, maison de campagne, il y a le nom d'un homme qui est gravé, voilà. Et j'ai découvert qu'il était sur le monument aux morts. Voilà. Donc ça m'intéresse de raconter l'histoire d'un homme qui est mort à 20 ans.
Oui. Donc tu as écrit un certain nombre de livres. Hein. Et c'est marrant parce que tu me disais qu'au début, quand tu as commencé à signer ton livre, les gens ne te connaissaient pas, hein. Il disait, ah bon, ah ben vous avez écrit le Goncourt, toujours, vous êtes quelqu'un d'important, vous toujours, appelez
toujours,
comment?
Mais toujours maintenant, enfin je veux dire, une personne sur, tout à fait logiquement, à peu près 19 personnes sur 20, à ce niveau de vente, hein, viennent me voir en me disant, c'est le premier livre que je lis de vous. C'est normal, la totalité de la vente de mes ventes, de mes autres livres, doit s'accumuler à...
Tu en as écrit beaucoup?
Oui, mais 130 000, 140 000 en tout, tous mes autres livres.
Oui.
Donc ça va, mais j'ai beaucoup de gens qui ont acheté 5 ou 10. Donc en fait, ça veut dire que mon lectorat, c'est objectivement 40-50 000 lecteurs.
Mais ton plus beau livre, c'est Toutes les familles heureuses. Ça, je le conseille à tout le monde. C'est un livre très émouvant. C'est bien ça, Toutes les familles heureuses?
Oui, c'est ça.
C'est le plus beau livre de...
De toute la littérature, je pense.
De toute la littérature. C'est un livre très émouvant, très personnel, puisque c'est totalement autobiographique. Il y en a chez Gallimard sur ton stand ou pas? Non, il n'y en a pas. Mais chez les bons. Bon, alors, on va passer. Si vous avez quelques questions, toi. Hein? Oui, quelques questions. Ah, bah oui, voilà. Il pense à tout. Mais. Donc, là, oui, le salon est encore ouvert, il n'y a pas de problème. 6h30, oui. Alors, toi, tu as tous tes bouquins. Toi, tu pars demain, donc tu peux être là que ce soir, si vous voulez.
C'est le moment où jamais.
Alors que mon camarade Pascal, ici présent, est là toute la journée de demain. On est bien d'accord.
On s'est déjà tous vus. Moi, c'est parce que les libraires nous ont dit qu'ils nous attendaient.
Hein, oui, d'accord. Oui. Est-ce que vous avez quelques questions sur Rire et Chanter? Qu'est-ce que je raconte? Enfin, non. Faut quand même... Je vous signale qu'il est bac plus 2, hein, voire 3 même. C'est quand même... C'était de très, très haut niveau. Hein. Tu t'en fous parce que tu te fais même plus attention à qui tu t'adresses, là. Vous avez quelques questions éventuelles? Non. Oui. Merci beaucoup. Et juste une dernière chose. Si tu avais écrit la suite de l'anomalie, ce qui va pas, qu'est-ce que ça aurait pu être? L'avion qui revient?
Justement, c'est parce que je ne sais absolument pas ce que j'aurais pu faire. En fait, tu as dû remarquer que dans l'anomalie, j'ai évité une chose qui est le maillage entre les personnages. C'est-à-dire que, très sincèrement, à un moment donné, j'y ai pensé, je me suis dit, mais je vais les faire se rencontrer, avoir des interactions très fortes. Mais je partais sur d'un seul coup, si je faisais ça, je partais sur un livre qui faisait 600 pages. Et Et je voulais un livre que les gens commencent à 9h et finissent à 3h du matin. Donc, ce n'était pas l'idée. Je voulais un livre que les gens ne lâchent pas, mais qui soit un livre d'une certaine longueur. Et je m'étais fixé d'ailleurs dans ma tête un truc. C'est toujours un peu bizarre, mais après un certain nombre de livres, on sait combien de temps.
Il y a combien de signes,
457 000.
Oui,
non, il y a une suite en fait.
Ouais.
Non, mais de toute façon, après, il y a les correcteurs qui interviennent et ça change de nombre. Voilà. Donc, multiplié par. Voilà. Donc voilà. Merci à vous.